sera, on la sera.
Nous sommes là, nous serons là. On l'a été pour contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et on le sera contre le projet d'Amazon. Merci.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver tous les deux mois sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre zone.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Autre Monde, Autres Ondes, l'émission proposée par Attaque 44. Cette deuxième émission a été co-réalisée par Agnès, Pierre, Étienne et moi-même Aurélie. Comme chaque mois, nous vous invitons à découvrir un sujet d'actualité à travers les témoignages de personnes qui s'engagent, se mobilisent, participent à la vie de leur territoire et de les mettre en regard d'analyses portées par des spécialistes, des chercheuses et des chercheurs. Donc pour cette deuxième émission, on a eu envie de sortir de Nantes et d'aller à la rencontre des gens qui se mobilisent en dehors des grands centres urbains, donc à la campagne. Et pour cela, on a été à la rencontre de différents acteurs sur le département. Et on n'a pas vraiment su s'arrêter, du coup on a décidé de faire deux épisodes autour de la ruralité. Le premier autour de la manière dont des personnes se mobilisent à ce qu'on a appelé une échelle infra, c'est-à-dire sans forcément se revendiquer d'une mobilisation et d'un engagement particulier, mais qui pour autant à travers leur activité font bouger les lignes. Et donc le deuxième épisode sera consacré à des luttes revendiquées comme telles. Et pour commencer, on s'est interrogé sur savoir qu'est-ce que c'était que la ruralité. Et donc Pierre, pour cela, tu as été à la rencontre de Valérie Joussaume.
Effectivement, Aurélie, j'ai eu la chance de rencontrer Valérie Joussaume, qui est maître de conférence à l'Institut de géographie d'aménagement de l'Université de Nantes. Elle est donc enseignante et chercheuse. Elle est également membre d'une équipe CNRS qui s'appelle l'ESO, Espace et Société. Ce qu'il faut savoir, c'est que Valérie Joussaume, son domaine de recherche plus particulièrement, ce sont les territoires en transition. Et d'ailleurs, elle nous expliquera plus précisément ce qu'elle entend par le concept de transition sociétale. Et elle nous a permis d'en savoir un petit peu plus parce que c'est également une spécialiste des territoires du Grand Ouest et plus particulièrement de Loire-Atlantique.
Alors, en termes de définition, on pourrait dire que, on pourrait donner plusieurs définitions de la campagne. Pour aller au plus simple, on pourrait dire que la campagne, c'est un environnement de vie, de nature domestiquée par l'homme. Ça se distingue donc de la nature sauvage et ça se distingue donc de la ville qui serait un monde artificiel, c'est-à-dire construit par les humains intégralement. Donc ça, c'est une première définition. La deuxième définition qu'on peut donner, c'est que la campagne, c'est ce qui délimite la ville en l'entourant. Une autre définition, on pourrait dire que c'est un... Si la ville, c'est le lieu de la densité et de la diversité, on pourrait dire que la campagne, c'est plutôt le lieu justement d'une moindre densité et d'une moindre diversité, que ce soit en termes d'offres de services ou autres. Voilà un petit peu différents types de définitions qu'on peut donner de la campagne. Et bon, ensuite, à l'intérieur de ce grand mot, la campagne, on a une diversité de campagnes. On peut dire que par le passé, dans les sociétés paysannes, la diversité des campagnes était beaucoup liée à, était liée à deux choses, l'écosystème et les systèmes familiaux, décrits par Emmanuel Todd. Hein, les campagnes se distinguaient par des pays qui étaient liés beaucoup à l'écosystème. Et puis, on va dire que dans l'ère de la modernité, dans le monde qui est le nôtre, la diversité des campagnes, on va insister sur différentes diversités selon les époques. On peut dire que pendant les Trente Glorieuses, il y avait ce qui était bien, on va dire, ce qui était valorisé, c'était les campagnes qui se modernisaient, c'est-à-dire industrialisation de l'agriculture, industrialisation de l'économie. Et on les opposait aux campagnes restées dans leur jus paysan, qui est la paresse archaïque. Ensuite, on pourrait dire que dans les années 70-80, au moment de la périurbanisation, là, on va surtout faire des distinctions de campagnes entre les campagnes proches des villes, les campagnes périurbaines, et les campagnes éloignées des villes, qui, elles, apparaissent comme moins valorisées. Et puis, depuis les années 90-2000, où on a un espèce de renversement des imaginaires, dont on parlera peut-être plus tard, on va avoir les campagnes qui sont restées dans leur jus un peu paysan, avec une qualité architecturale, environnementale, qui vont être valorisées. Et ce qui va être dévalorisé, c'est les campagnes défigurées par la modernité, c'est-à-dire celles qui étaient à la mode dans les années 60. Donc vous voyez, il y a une diversité des campagnes, mais on pourrait dire qu'il y a aussi une généalogie. On pourrait faire une généalogie des campagnes pour montrer comment elles peuvent avoir des phases où elles sont identifiées positivement et puis comment elles peuvent être dévalorisées ensuite. Et à l'inverse, des campagnes qui paraissaient complètement ringardes, complètement archaïques, aujourd'hui apparaissent comme des paradis verts.
Bien. Alors, j'ai lu un petit peu ce que vous aviez fait avant de venir, et j'ai vu notamment que vous utilisiez ce concept de transition sociétale. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus précisément ce que ça signifie? Et peut-être pour enchaîner aussi, en quoi les campagnes peuvent avoir un rôle et des atouts pour cette transition sociétale?
Oui. Alors, moi, l'originalité peut-être que je développe, c'est de dire qu'on parle beaucoup de transition écologique, de transition énergétique. Il y a beaucoup une entrée par l'écologie dans le terme de la transition. Et moi, cette transition, pour moi, c'est pas... Enfin, la transition écologique ou énergétique n'est que l'une des facettes d'une transition anthropologique majeure dans l'histoire de l'humanité qui va bouleverser toutes les facettes de notre culture. Alors, pour vous expliquer de quoi il retourne, je me positionne dans des courants qui avaient été développés déjà, des grands cycles qui avaient été développés par Fernand Braudel, par exemple. Dans l'histoire de l'humanité, on pourrait dire qu'il y a eu... tout est cyclique, en fait. Bon. Il y a des grands cycles qui correspondent à des types d'environnement de vie, des types de relations à l'espace et au temps, de types de relations à son corps, etc. Et donc, dans l'histoire de l'humanité, on pourrait dire qu'il y a eu trois grands cycles et que la transition sociétale actuelle est le passage vers un quatrième grand cycle. Quels sont les grands cycles que nous avons connus? Le premier grand cycle, c'est le cycle des chasseurs-cueilleurs-pêcheurs, que moi j'appelle l'ère sauvage, où notre premier environnement de vie, c'est de vivre dans la nature sauvage. Et puis, il y a un deuxième grand cycle qui va commencer avec, dans l'histoire humaine, avec l'invention de l'agriculture, qui est donc la domestication des plantes et des animaux. Et là, on va rentrer dans le cycle de la terre. Et donc, notre deuxième environnement de vie principal, ça va être la nature domestiquée par les hommes pour produire de la nourriture, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément la campagne. Et puis, il y a la révolution industrielle. La révolution industrielle, elle va donner naissance à la culture qui est la nôtre aujourd'hui, la culture de l'ère de la modernité. Bon, c'est quand l'homme arrive à transformer le feu thermique en énergie mécanique, à part le biais des moteurs. Donc, on peut dire que d'un point de vue économique, l'ère thermo-industrielle, c'est la vie motorisée. D'un point de vue sociologique, on pourrait dire que l'ère de la modernité elle puise ses racines dans une classe sociale très minoritaire de l'ère paysanne, qui étaient donc les commerçants, les grands bourgeois commerçants, qui vont rentrer dans le monde capitaliste avec la colonisation. Hein, donc c'est la fondation des grandes compagnies des Indes, etc. Et on peut dire que l'ère de la modernité, c'est la généralisation de la vie bourgeoise pour tous. Et puis d'un point de vue philosophique, eh bien, c'est l'esprit des Lumières, donc c'est l'homme séparé de la nature. D'un point de vue métaphorique, on pourrait dire le monde est comme une usine à produire et à consommer. Et l'homme, là-dedans, est une machine biologique qui indépendante de son environnement. C'est l'homme qui croit en l'homme, dit Emmanuel Todd, donc c'est le monde matérialiste, seule la matière existe. Donc ça, c'est notre monde actuel. Et ce que moi, j'interprète la transition sociétale globale, anthropologique, c'est que, en fait, la révolution numérique, c'est-à-dire l'invention d'Internet, eh bien, cette révolution numérique nous fait à nouveau basculer dans une autre relation à l'espace et au temps. et notre relation à notre corps, etc. Au départ, on a cru que le numérique était une invention, un progrès technique parmi les autres. Et donc, le projet des pouvoirs de la modernité, c'est-à-dire des pouvoirs capitalistes en place, c'est de dire, on va continuer dans l'ère de la modernité, mais exalté par le numérique. C'est-à-dire que le numérique, on va continuer comme on était parti, en allant encore plus vite, encore plus loin, encore plus fort, encore plus rentable grâce au numérique. Et là, on passe du monde, du monde usine au monde ordinateur. Et qu'est-ce que l'homme fait là ? Eh bien, l'homme fait partie de l'ordinateur. L'homme est connecté, donc ça se traduit par une reconnexion à son environnement. Mais l'homme est connecté à quoi ? Aux objets via Internet. Et ça, c'est le récit hyper moderne. Donc, c'est une espèce d'exaltation de l'ère de la modernité grâce au numérique. Mais en cours de route, on a perdu tous nos idéaux sociaux du départ. Mais le problème de ce projet, c'est que d'abord, on prend conscience que la révolution numérique, changeant notre rapport à l'espace-temps, change notre rapport aux autres et à nous-mêmes, donc la conscience qu'on a de nous-mêmes. De la même façon que s'est effondrée la culture paysanne sous les effets de la modernité, la culture moderne est en train de s'effondrer sous les effets de la révolution numérique. Donc on se rend compte qu'on sort complètement de notre modèle culturel, philosophique, social, etc. Mais que, en plus, le projet hyper moderne des pouvoirs capitalistes qui essaient de se maintenir dans la révolution numérique crée un monde totalement dystopique. Cette société du tout numérique, en réalité, on commence à mesurer complètement que c'est une société du contrôle, que les sociétés du numérique qui n'existaient pas il y a 40 ans sont devenues des entités financières tellement puissantes que les oligarques expriment clairement des désirs politiques non démocratiques sur la santé, la vieillesse, l'éducation, la conquête de l'espace, la géopolitique internationale. Et donc, en fond, ce récit hyper moderne ne satisfait plus, ne fait plus rêver personne. Et c'est comme ça qu'apparaît de façon décentralisée et subalterne par les marges et les mémoires et les gens qui sont dominés, eh bien par, moi j'ai toujours, la modernité, l'hypermodernité s'effondre complètement par la tête, mais elle repousse par les racines et de façon décentralisée et subalterne se construit un rêve, une utopie qui n'est pas encore unifiée d'un futur du numérique qui n'a rien à voir, qui rompt totalement avec tous les dogmes de la modernité et l'idée qu'on peut utiliser la révolution numérique pour inventer un monde complètement nouveau.
Et alors du coup, en quoi les campagnes peuvent être un lieu de ce monde nouveau du numérique ?
Alors les campagnes, elles apparaissent comme une marge et une mémoire. C'est-à-dire que, je vais caricaturer un petit peu, mais ça va permettre de comprendre. L'épicentre de la modernité, c'est le mental rationaliste des hommes, de la grande bourgeoisie, des grandes villes, de l'Europe de la Renaissance et par extension de l'Occident aujourd'hui. Et donc, cet épicentre de la modernité, eh bien, on va trouver tout ce qui va être totalement alternatif, on va le retrouver dans les polarités opposées, qui sont donc les marges et les mémoires refoulées du système. Donc c'est comme si le monde, la marge, c'est l'opposé du mental rationaliste, ça va être de réharmoniser un peu le ressenti, les émotions, les sentiments et le mental créatif, voire les dimensions spirituelles. On va trouver des germes là-dedans. Le deuxième, je disais des hommes, donc bien sûr, la polarité opposée, je ne vais pas dire les femmes, je ne vais pas pour créer une guerre homme-femme, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, c'est pour récupérer en fait le féminin en nous, de se réharmoniser sur du féminin, donc tout ce qui va être le féminin, d'accord ? Mais on pourrait dire que, vous voyez, comment finalement tout ce qui va être les questions du genre sont à rattacher avec ça. Donc, je vous ai dit le mental rationaliste des hommes, de la grande bourgeoisie. Donc, là, on va dire toutes les classes subalternes, toutes les classes dominées. Donc moi, je crois beaucoup à la résurgence aussi de toutes les mémoires ouvrières, de tous les savoirs low-tech, toute la débrouillardise, cette intelligence, ces savoir-faire des classes populaires. Ensuite, des grandes villes, donc c'est là où c'est intéressant. L'opposé des grandes villes, c'est soit la nature sauvage, aux États-Unis, en Australie, soit, et donc là les mémoires de chasseurs-cueilleurs, soit les campagnes. Et puis de l'Occident, eh bien, c'est toutes les connaissances autochtones. Donc vous voyez, c'est cette opposition de l'épicentre de la modernité, eh bien, les altérités les plus radicales, on va les trouver dans ces marges. Et là, il y a la campagne qui est présente et les mémoires paysannes. D'accord ? C'est la campagne comme lieu, mais aussi les mémoires paysannes comme, on va dire, mémoires anthropologiques communes en fait, à tous. Parce que pour moi, les mémoires ne décident pas du futur. À quoi servent les mémoires ? Elles servent à stabiliser un corps social anxieux. Aujourd'hui, nous sortons de la modernité, nous allons vers un futur totalement inconnu, il n'y a pas de projet collectif, il est à construire. Et donc la mémoire, elle sert simplement, on va récupérer toutes les mémoires humaines, tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a vécu, pour stabiliser en se disant ça, on sait faire, et donc par rapport à notre projet de futur, voilà ce qu'on peut revaloriser.
Qu'est-ce que vous entendez par mémoire paysanne ?
Alors, dans les mémoires paysannes, par exemple, une agriculture qui s'est adaptée à toutes les niches écologiques, depuis les polders littoraux jusqu'aux estives de montagne, on s'est adapté à toutes les niches écologiques possibles. On sait faire, on a su faire, donc on peut récupérer ça. Autre élément intéressant, l'économie, une espèce de sobriété subie à l'époque. Mais, par exemple, comment valoriser plus l'usage que la possession, par exemple, des usages communs. Ça, on sait faire. Les sociétés paysannes, elles savaient aussi créer un monde, un nous, sur de la localité. C'est-à-dire, comment est-ce qu'en habitant côte à côte, on peut créer un commun ? Aujourd'hui, la société moderne ne sait pas faire ça. Donc, il y a aussi cette économie, le recyclage, puisque c'était des sociétés quand même avec des biens, tout était recyclé, racheté, enfin... Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'économies d'usage, de partage, de recyclage, d'adaptation niche environnementale, même de cohabitation, c'est-à-dire des communautés. Alors, évidemment, dans les campagnes, on était sur de la communauté familiale, et puis on vivait vraiment en communauté. Les sociétés paysannes, elles mangent en groupe, elles dorment en groupe, elles dansent en groupe. Toutes les danses traditionnelles sont des danses de groupe. La société moderne nous a individualisés, elle nous a comme débités en pavé. Aujourd'hui, on ne va pas retourner dans des communautés paysannes qu'on ne supporterait pas 5 minutes, mais comment on va faire une communauté d'individus ? C'est-à-dire comment, avec ces pierres qui ont été découpées, on peut faire une maison commune ? Donc, se réapproprier les mémoires et les marges pour produire une alternative vraiment nouvelle. Et en ce sens, les campagnes participent des mêmes mouvements que les mouvements autochtones, que les mouvements féministes, que les mouvements subalternes des émeutes populaires, voire que des mouvements artistiques ou voire même spirituels. C'est pour ça que mon bouquin, je l'ai appelé Plouc Pride, pour montrer que pour positionner la question rurale et paysanne au cœur des mouvements de fierté plus globales.
Un vent, un grand vent nouveau souffle sur le pays très chaudement dans un bain de foule dévot à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central.
Merci Pierre pour cet entretien très intéressant donc avec Valérie Joussaume, qui, on le rappelle, est à retrouver en intégralité sur le site d'Attaque 44. Donc, pour illustrer concrètement sa vision d'une ruralité qui contribue à la création d'alternatives, on a été à la rencontre des acteurs et des actrices de ces territoires, et notamment de ceux du monde agricole. Et pour ça, on a pensé à Jocelyn Guéda, parce qu'en août dernier, il a accueilli sur sa ferme, la ferme des Mille et Une Pattes, le camp climat, organisé par Alternatiba, auquel Attaque 44 a participé. Et donc, on a été le rencontrer, et on lui a évidemment demandé de nous raconter son activité, ce qui l'a poussé à devenir paysan, mais aussi comment il en est venu à accueillir le camp climat.
Donc ici, on est à Carquefou, entre Carquefou et Mauves, dans une vallée qui est la vallée de la Chalandière. Et donc c'est l'éco-ferme des Mille et Une Pattes.
Qu'est-ce que tu fais sur cette ferme ?
On fait des poules pondeuses, des vaches à viande, des céréales en transformation farine pour les humains. Toutes les productions sont bio, on fait partie d'un réseau aussi qui s'appelle Paysans de Nature et qui a une attention spéciale sur la biodiversité à côté. Le réseau Paysans de Nature, c'est lié à la LPO, c'est une initiative de la LPO. Le but, c'est de mettre les agriculteurs et les naturalistes en lien, de faire participer aussi les agriculteurs à s'intéresser à la biodiversité. Et donc ça permet d'avoir des gens de la LPO qui interviennent sur la ferme en faisant des relevés sur un relevé faune, relevé flore, comment vont les chauves-souris, comment vont les papillons. Voilà, différents points, puisqu'on peut jamais. L'écosystème est tellement vaste, on peut jamais répondre une réponse absolue, c'est bien, c'est mal, c'est plus l'état de telle chose, comment elle est.
Pourquoi tu t'es inscrit dans ce réseau ?
Moi, ma formation de base, c'est l'environnement. J'aurais pu aussi bien être naturaliste aujourd'hui qu'agriculteur. Je fais un BTS gestion protection de l'environnement, donc j'ai travaillé dans des réserves naturelles. J'ai fait tout ce que ces gars-là font, mais aujourd'hui j'ai préféré faire l'agriculture.
Pourquoi ?
L'agriculture aujourd'hui, c'est la façon la plus concrète de protéger l'environnement. Ça veut dire que 80% du territoire français, c'est de l'agriculture. Donc si on veut que 90% ou 80% de l'environnement français aille bien, il faut que l'agriculture aille bien. Donc c'est quand on travaillait autour des réserves naturelles, on était toujours en lien avec des agriculteurs. C'est eux qui faisaient le tampon entre le milieu, vraiment la réserve pure où il n'y a rien le droit de faire, et puis des zones un peu plus anthropisées. Donc entre les deux, il y a de l'agriculture. Sur certaines réserves aussi, naturel, il faut des agriculteurs pour qu'elles tiennent. Et quand je faisais mes études à l'époque, l'agriculture bio, c'était une mesure parmi tant d'autres pour l'environnement. Aujourd'hui, c'est vraiment à part, il y a les aides bio, mais c'est pas complètement distinct de ce qu'on appelle les MAE. Donc les MAE, c'est les mesures agro-environnementales, c'est des mesures qu'on propose aux agriculteurs pour l'environnement. Donc la transition, elle s'est faite comme ça, à force de côtoyer des agriculteurs qui faisaient des MAE, qui avaient des bonnes pratiques. Je me suis dit, moi je vais essayer de faire une ferme où je mets autant de bonnes pratiques que ce que je peux.
Alors là, tu viens de nourrir tes vaches. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ?
L'Highland Cattle est typiquement l'héritage de mes années de formation, parce que c'est typiquement une race qu'on voit beaucoup quand on est en gestion protection de l'environnement pour entretenir des zones humides, des bords de rivières, des vallées humides comme ici, des marais. Bon, voilà, elle tolère ces milieux pas très idéal pour une agriculture moderne. Et les fondements de l'élevage, même si aujourd'hui c'est à mauvaise presse, l'élevage, avant d'être dans des zones propices aux céréales, et c'est la critique qu'on peut lui faire, c'est qu'aujourd'hui il empiète sur de la céréale humaine, il empiète sur du territoire qui pourrait servir aux hommes ou à d'autres choses. Avant ça, l'élevage, c'était, on disait qu'on valorisait des zones, donc des zones pas propres aux humains ou à d'autres choses. Donc c'est l'élevage, c'était la montagne, c'était les bords de rivière, c'était les marais. Et aujourd'hui, c'est toutes ces zones-là où l'élevage est en train de disparaître. Parce qu'il y a un autre élevage qui est né, qui est l'élevage productiviste, qui lui est sur des grandes plaines, qui est lui comme les feedlots aux États-Unis, où des belles zones bien propres, bien droites, bah, on les met en élevage. Et c'est forcément plus concurrentiel que faire ce qu'on fait ici, qui est mettre des vaches dans des zones pas propices. Moi, j'ai des races en voie d'extinction, mais je considère que ce qu'on fait, c'est on est en voie d'extinction, quoi. La petite paysannerie, contrairement à ce qu'on croit, le bio en ce moment, ça marche pas. C'est-à-dire, y a de moins en moins de consommation bio. Consommation locale, ça baisse. Les magasins de proximité, les consommations baissent. Depuis le Covid, là, ça marche pas. Depuis le Covid. Pendant le Covid, on était les dieux, c'est-à-dire les magasins n'avaient plus rien, les grandes chaînes n'avaient plus de produits, on allait voir les paysans, on allait voir les magasins de proximité. Et dès que les Lidl et les Leclerc ont réouvert, bah, les gens sont allés deux fois plus dans ces magasins. La communication, elle est compliquée parce que il y a des totems dans l'écologie aujourd'hui. Et le temps que l'information des bons sujets arrive, bah, c'est trop tard en fait. On est en train de perdre quasiment tous les combats.
Toi, est-ce que tu as une réflexion par rapport à ça, cette manière de mener des combats?
Bah, moi, c'est une des raisons qui m'a fait faire de l'agriculture. C'est qu'en fait, j'ai été pas mal investi dans les partis à un moment. Mais en fait, à chaque fois que je vais, je suis déçu. Ça veut dire que les gens, ils s'attaquent à des mauvais débats. Et du coup, l'agriculture, pour moi, c'est devenu une évidence que... Bah, voilà, moi, j'ai 70 hectares où je sais que ce qui s'y passe, ça marche, ça fonctionne. Je sais que j'ai des naturalistes qui viennent, qui me disent « Ok, c'est cool, ça fonctionne ce que tu fais. » Ils me conseillent sur les choses à améliorer. Ils me disent les choses qui fonctionnent. Et 70 hectares pour un humain, en fait, c'est le travail. Il y a 60 millions d'hectares. Je crois qu'il y a 30 millions d'hectares cultivés en France. Donc, ça veut dire divisé par le nombre de Français qu'on est, ça fait même pas un demi-hectare par personne. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je fais le travail de 140 personnes. Donc, moi, je suis serein. Je sais que j'ai l'équivalent de 140 Français qu'on fait quelque chose de bien sur leur territoire. Donc... si je peux faire plus demain, je ferai plus. Mais déjà aujourd'hui, je sais que ce que j'ai fait, c'est chouette.
Pour autant, tu as quand même récemment accueilli le camp climat de Alternativa. Comment t'en es venu à ouvrir ta porte? Comment ça s'est passé?
Bah, après, c'est pas parce que je suis déçu, moi, que je considère pas que les gens, faut pas qu'ils continuent. Au contraire, il faut qu'on continue tous les combats sur tous les fronts. Et moi, j'ai choisi une voie et il faut que les autres voies continuent. Il faut de la bataille quand même sur la communication, il faut de la bataille politique. Évidemment, mais bah, du coup la logique elle est simple, hein. La ferme elle fait tout ce qu'elle peut à son échelle et une ferme c'est énormément de surface, c'est énormément de possibilités, donc il faut que les fermes elles servent aux citoyens. Donc moi mon rêve c'est que la ferme demain elle puisse servir d'atelier à des gens qui veulent faire des ateliers, qu'elle puisse servir à des réunions comme il y a eu avec Alternativa, des rassemblements. C'est un bon moyen en fait de remettre sur la table justement partager nos croyances, nos sensibilités à nous agriculteurs, où on est quand même plus dans le concret que des gens de la ville, et du coup qui puissent entendre aussi notre voix sur ce qu'on a à défendre, quoi. Et du coup, de toute façon, et même s'ils ne m'entendaient pas, même des gens qui seraient vegan ou VG ou du L214, si demain ils avaient besoin d'espace pour faire leur réunion, je le ferais quand même, parce que en fait on n'a pas besoin d'être d'accord sur toute la ligne pour partager des choses, quoi. Et donc, de toute façon, on avance. Enfin, faut qu'on avance ensemble. Et le militantisme, faut qu'il arrête de se diviser si on veut servir à quelque chose et si on veut que notre action elle fonctionne, quoi.
Alors on entend bien là dans le témoignage de Jocelyn la manière dont le monde agricole peut être mobilisé sur la question de la transition écologique, parfois d'ailleurs pas toujours très bien compris. Et ça se sent dans ce qu'il raconte sur la manière dont les gens n'ont pas forcément conscience de la réalité des agriculteurs et de peut-être une méconnaissance aussi de certaines pratiques qui font que même dans un camp climat, on pense peut-être pas toujours à parler de l'agriculture comme un levier de transition écologique, ce qui est effectivement à interroger. Mais dans son témoignage, il parle aussi d'une chose assez intéressante, je trouve, c'est la manière dont les fermes sont des lieux ouverts à la rencontre et à l'interconnaissance, et notamment à l'interconnaissance des luttes. Et c'est vrai que dans le milieu rural, on peut parfois avoir cette problématique-là de lieu de rencontre pour échanger, pour s'organiser, pour monter des projets. Voilà, y a pas mal de petits bistrots de campagne qui ont disparu. Et donc, ça rejoint ton sujet, Étienne, puisque tu as été à la rencontre de deux femmes qui tiennent un lieu de vie où se mixent plusieurs activités.
Oui, Aurélie. Alors moi, je suis allé sur le canal de Nantes à Brest, plus précisément à l'écluse de Cramzol, qui se trouve du côté de Nord-sur-Erdre, pour rencontrer Camille et Jeanne, qui animent un lieu qui s'appelle l'Accueilleuse. Et donc, je vais laisser Jeanne vous présenter l'Accueilleuse.
Eh bien, c'est une SARL polyvalente, on va dire. Parce qu'on a plusieurs activités et ça dépend un peu des saisons. Parce qu'on a une activité estivale qui comprend l'ouverture d'une terrasse avec accueil de public, des locaux, des gens de passage qui sont à vélo ou à cheval, à pied. Et là, on propose de la petite restauration, des boissons, des petites choses comme ça, tout en produits locaux de saison et bio au maximum. Et on fait une quinzaine d'événements à peu près chaque été. Souvent c'est les vendredis soirs, les apéros du vendredi soir. Et on fait aussi, on a un jardin de 7000 m² où on accueille des gens qui sont en bivouac, donc qui peuvent poser la tente directement dans le jardin. Et Camille continue de faire du pain l'été aussi, toute l'année en fait.
Oui, le cœur du projet c'était le café culturel, ouais. Et le fournil à l'année. Moi, je fabrique du pain à l'année. On vend chez des particuliers à 15 km à la ronde. Enfin, le plus loin on va, c'est à 15 km. Sinon, c'est vraiment des gens autour de chez nous. On a créé des groupements d'achat. Du coup, on va livrer chez Marie-Vonne, chez Hubert, et puis dans 2-3 magasins bio, de vrac ou un marché à la ferme aussi. Et puis, il y a aussi ce qui se rajoute l'hiver, on fait des petits dérivés, Jeanne fait des brioches, on fait des pains d'épices et des crêpes galettes. Mmh. Pareil, tout en bio et puis les farines sont locales.
Vous aviez déjà des expériences dans le domaine ou c'était nouveau pour vous ?
Moi, je bossais dans des assos à D'accord. Lille. Je faisais des boulots de coordination d'événements, chargée de mission, ce genre de trucs. Et puis, juste avant de partir, j'ai passé un CAP boulangerie en candidat libre, en me disant, oh, ça servira un jour, j'ai envie de retourner à la campagne, de faire des projets collectifs, c'est un petit truc dans ma besace, voilà, ça pourra servir. Et puis, j'ai eu le CAP, et juste après, on a vu l'appel à projet, on a répondu, et ça s'est enchaîné, en fait. Un appel à projet qui était lancé par le département Loire-Atlantique pour une maison éclusière le long du canal de Nantes à Brest. Et du coup, on y a répondu en proposant un fournil et un espace café culturel. Et du coup, on a commencé l'aventure collective à trois. Voilà, le lancement un peu. Et puis mes collègues sont partis l'année dernière. Du coup, Jeanne est arrivée en 2020, quoi. Enfin, il y a à peu près 2 ans. Et on a repris ensemble l'accueilleuse.
Moi, j'étais surveillante dans un lycée. Et avant ça, j'étais plutôt en voyage.
D'accord.
En fait, non, j'avais jamais vraiment... J'avais eu quelques petites expériences en restauration, mais vraiment minimes. Mais en tout cas, j'étais très très motivée quand je suis arrivée.
Ouais.
Ça s'est présenté au bon moment.
Mais ouais, non, ça a été... On a appris sur le tard. Moi, la cuisine, je n'avais jamais fait. Créer un truc, je n'avais jamais fait. Mais ouais, on était motivés, quoi. Et puis vraiment envie de porter un truc, porter le bio, réussir à rester accessible malgré tout, que les prix soient accessibles. Du coup, faire une cuisine simple, okay. Tout faire nous-mêmes. Mmh. Voilà.
Valoriser des produits de producteurs du coin, aussi.
Du coup, ouais, c'est un équilibre qui n'est pas évident à trouver, financièrement, en termes de temps, en termes de... Mmh. Voilà, mais petit à petit, on a réussi un peu à rationaliser notre histoire... Ça commence à se tenir un petit peu. Mais en tout cas, c'est ce qui nous motive, quoi.
Ah, ça, c'est un engagement personnel aussi. C'est oui, t'as pas beaucoup de temps, mais en même temps, tu fais ce que t'aimes aussi. C'est un peu métier-passion, plus, quoi.
Et donc parmi les gens qui viennent à l'accueilleuse, est-ce qu'il s'agit plutôt de gens du coin, de riverains, ou de promeneurs qui font le canal de Nantes à Brest ou de Brest à Nantes?
On a un peu les deux. Ouais. Pas mal de gens qui tombent par hasard quand même, dans les voyageurs, les voyageuses. Et après, quelques gens, le bouche à oreille, quoi, des gens qui ont entendu parler de nous, via les événements aussi, pour le coup. Et ça, ça ramène beaucoup de gens du coin, qui ramènent leurs amis. Et du coup, petit à petit, ça s'ébruite. Et puis, ouais, ça, je crois que c'est un truc qu'on partage aussi avec Jeanne, de travailler avec les gens du coin, du coup, d'être dans un truc... ouais, simple, quoi, familier, même si c'est bio ce qu'on fait, c'est majoritairement végétarien. Enfin, on n'en fait pas l'étalage, quoi. L'idée, c'est d'être dans un... Voilà, que je sais pas trop comment
oui,
te dire
que
ça.
Soit, oui, que ce soit... oui, on n'en fait pas la promotion particulièrement, le fait que ce soit végétarien. Enfin, on le dit que c'est local et que c'est bio, on le dit, mais on le met pas, on le placarde pas partout. Parce D'accord. qu'en fait, pour nous, c'est comme ça qu'on devrait consommer les choses. Donc du coup, on essaie d'en faire quelque chose d'un peu naturel et d'un peu normal, en fait.
Ça nous permet aussi de toucher des gens qui sont pas forcément à fond dans la bio ou végé ou qui consomment comme ça. Bon, il y a quand même un certain type de public qui vient chez nous, mais j'ai l'impression que, notamment à des événements assez familiaux ou des concerts ou des petits festivals de musique, ça mélange quand même un peu un public, quoi, entre les camping-caristes, les cyclos un peu bobos qui arrivent de Nantes et Hubert du coin et je sais pas qui. Bah c'est cool, quoi. On est sur une diversité de campagne, c'est pas non plus une diversité incroyable, mais quand même, quoi, j'ai l'impression on essaye.
Il y a des générations différentes aussi, t'as le groupe de Lucas et Louis qui viennent très régulièrement, qui ont 18-19 ans, qui travaillaient aux écluses.
Qui
squattent, oui. Qui viennent là très régulièrement. Et puis, t'as nos amis, et puis il y a des personnes un peu plus âgées. Il y a tout, il y a des quarantenaires, des cinquantenaires, des soixantenaires. Et puis pareil pour le pain, il y a aussi toutes les générations qui viennent. Donc ça, c'est aussi... Et en fait, ils discutent ensemble. Et c'est ça qui est trop bien aussi. Ouais. Mais pas sur la terrasse, ils s'assoient, on a des tables qui peuvent être un peu grandes, donc du coup, ils s'assoient, quand il n'y a plus trop de place nulle part, ils s'assoient les uns à côté des autres. Et...
Du coup, ça vit quand même, en tout cas les événements vivent grâce à nos amis, à des gens du coin qui viennent filer la main, qui nous rendent des services. Ouais, tout ça, ça n'existerait pas quand même sans toute cette aide.
Après, c'est vrai que ça crée un système de solidarité entre nous et nos voisins notamment. On se file des coups de main, ils viennent quand même beaucoup chez lui.
Nous on file des bières. Ils nous filent quand même pas mal de coups de main.
Mais en fait, du coup, c'est ça aussi, ça permet à des personnes. Là, je pense à Hubert et Fla par exemple, qui sont des personnes issues de deux générations complètement différentes, et en fait, qui se sont retrouvées plusieurs fois tous les deux à venir nous filer des coups de main. Et en fait, ils s'entendent super bien. Enfin, et c'est trop chouette de passer ce moment-là. Ouais.
C'était aussi la chance d'avoir un lieu, de pouvoir porter un peu des trucs qui nous tiennent à cœur et qui sont les questions écolo, des questions sociales un peu, et puis la question du féminisme aussi. Mmh. De pouvoir amener ça tranquillement en campagne, en milieu rural. Et du coup, ça s'est fait. Petit à petit, au fil de ces quatre dernières années, organisé tranquillement. La première fois, c'était qu'une journée, un week-end autour de questions féministes. Puis après, c'était deux jours. Et puis là, on a fait deux, l'année dernière et cette année, vraiment deux événements conséquents qui s'appellent les Remous. Et du coup, c'est sur deux jours et demi. Avec plein d'ateliers, des conférences. Et c'était super à chaque fois, que des gens incroyables, des retours super, un petit mélange qui se fait petit à petit entre des gens qui viennent de pas mal de Nantes quand même, de Rennes, ou un peu des jeunes du coin, et puis des vieux du coin. du coup, ou en tout cas on en parle, on a eu un petit article dans l'Ouest France, enfin tu vois, ça passe. On a fait pas mal d'ateliers en non-mixité. C'était un peu une question, comment ça va être reçu? Ça passe comme une lettre à la poste maintenant. Ouais. Mais je pense que d'avoir quand même connaître un peu les gens, d'avoir ce café, de vendre le pain. Les gens nous connaissent et voilà, y a, du coup, il y a moins... Curieux. Ouais, ça les rend curieux. Il y a moins d'a priori, quoi.
Mais puis, il y avait beaucoup de personnes déjà sensibilisées à ce genre de sujet, et puis il n'y en avait pas du tout, ou moins.
Ouais.
Et en tout cas, qui commencent à se poser un peu des questions, et du coup, qui n'étaient pas forcément... même des gens de passage, en fait, qui ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait quelque chose comme ça, et puis en fait, qui s'arrêtaient. On avait mis une expo... une BD sur le féminisme et une BD sur la non-mixité, vraiment sur le chemin en fait. Donc même si les gens ne voulaient pas s'arrêter, ce qui était complètement possible, qui était à vélo ou à pied, ne voulaient pas s'arrêter, et ben il y en avait quand même beaucoup qui descendaient un petit peu de leur vélo et qui regardaient les BD et puis qui repartaient. Mais en fait juste ça nous va en fait.
D'avoir une activité un peu banale finalement, vendre du pain, accueillir des gens, servir une bière, ça permet d'amener d'autres thématiques.
Moi, je trouve ça un bien incroyable. Ouais. Tu fais passer plein de trucs radicaux après.
C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandée. C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué.
Merci Étienne pour ce témoignage à travers lequel on comprend bien comment, à partir d'un lieu de vie et d'une activité de commerce de proximité aussi, on arrive à traiter des sujets plus engagés. Mais aussi comment, à travers des propositions artistiques, des concerts et des animations, on arrive aussi à faire se rencontrer différentes personnes de différents territoires et aussi de différentes générations. Pour finir, Agnès, toi, tu as aussi eu envie de nous emmener à la rencontre de deux projets artistiques et culturels qui illustrent bien comment l'art et la culture sont aussi porteurs d'engagement et de cohésion sur les territoires.
Rencontre maintenant avec Anne et Séverine, toutes deux investies dans l'animation culturelle de Saint-Hilaire-de-Chaléon, dans le Pays de Ré. Anne est bénévole active dans l'association Saint-Hilaire Ensemble. Elle nous parlera de son projet de soutien aux habitants, habitantes, pour qu'ils et elles puissent créer leur propre projet. Et Séverine est salariée d'une structure qui s'appelle Spectacle en Ré. On écoute donc Anne et Séverine parler de leur investissement.
Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je représente une association qui s'appelle Saint-Hilaire Ensemble et qui avant s'occupait du périscolaire, qui ne s'occupe plus du périscolaire. L'agglo a repris cette année, enfin l'année dernière. Et maintenant, en fait, notre but, c'est que les habitants de la commune se créent eux-mêmes leurs activités, leurs rencontres, pourquoi pas accueillir des spectacles si on en a envie. Voilà, l'asso, elle est là comme support pour que les gens puissent eux-mêmes faire venir des intervenants qu'ils ont choisis au lieu de prendre sa voiture et de devoir aller à Nantes, par exemple, pour faire un atelier de quelque chose, je sais pas quoi, voilà. Donc pour l'instant, c'est porté par 5 personnes. On aimerait bien que ça soit porté plus tard par beaucoup plus de personnes. Mais en fait, pour l'instant, quelles sont les difficultés ? Les difficultés, c'est de trouver des salles, parce que même si la mairie nous met à disposition certaines salles, elles ne sont pas forcément adéquates pour certaines activités. De communiquer, c'est pas facile de communiquer, même si on a quand même un petit réseau, mais on se retrouve toujours à communiquer auprès des mêmes personnes, alors que nous, le but, justement, c'est d'arriver à communiquer auprès des gens qui n'ont pas accès à l'information, comme quoi il se passe des choses à Saint-Hilaire-de-Chalion. Voilà. Et puis de lancer la dynamique, parce que les gens, pour l'instant, ils sont encore, je pense, plus dans un principe de s'inscrire à quelque chose et puis d'attendre que ça arrive, plutôt que de se le créer soi-même. De se dire, j'ai vachement envie de faire ça. Si je trouve une dizaine de personnes avec moi qui ont envie de faire ça aussi, on va se débrouiller tout seul pour le faire. Donc voilà, c'est de créer l'élan. Voilà.
De l'autre côté, le Festival des Endimanchés, donc là, il y a du monde qui vient quand même.
Oui, il y a 3000 personnes. On a fait 3000 entrées, par exemple, lors de la dernière édition. Bon, en plus, nous, on est une structure instituée avec des salariés, avec un CA, une asso qui a 25 ans quand même. Enfin, donc, on a réfléchi souvent, longtemps, durement. Et c'est vrai que nous, on a l'idée de... Bah aussi de toucher les gens du territoire. On est vraiment une asso de territoire. Le Pays de Ré, c'est notre territoire d'action. Et les Endimanchés, bon, se passent à Saint-Hilaire, mais on a d'autres choses qui se passent dans d'autres communes. Et du coup, c'est quand même de créer un festival pour les gens du coin. Donc pas que Saint-Hilaire, mais tout ce qui se passe à Saint-Hilaire, parce que il y a quand même plein de choses. Il y a donc Saint-Hilaire Ensemble, il y a le café de la Motte au Cochon. Il y a la forge juste en face du parc où on se trouve là, qui réunit quelques artistes artisans, où il y a des événements de temps en temps. Il y a la ferme à culture, qui est une équipe de maraîchers qui organise aussi des événements de temps en temps. Et en fait, tout ça, alors, faut pas se mentir, on croise souvent les mêmes personnes, mais peut-être qu'au fur et à mesure, on arrive à attraper d'autres gens.
Que là, on arrive à proposer des choses. Parfois, c'est 10 euros les séances. Et c'est parce qu'on, sans subvention, on arrive à faire ça pour trouver le nombre de gens. Et c'est trop cher. Moi, je trouve ça trop cher. Je trouve que les tarifs de 5-6 euros, c'est vachement bien pour pouvoir toucher un maximum de gens et qu'ils puissent avoir accès, que l'argent ne soit pas un frein. Et je pense que c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est que ça puisse... Parce qu'apporter des trucs culturels à la campagne, c'est chouette, mais si personne ne peut les consommer, enfin, les après, pratiquer, les acheter, les y aller, quoi.
Mais c'est une histoire d'accessibilité aussi autre que le tarif. Enfin, je pense qu'on est d'accord. Par exemple, le cœur du village, le bourg, dans la journée, on ne voit personne. Enfin, il y a un petit flux de voitures et de circulation à la sortie des écoles, mais même nous, par exemple, au spectacle Henri, si on veut passer des informations, je pense qu'il y a plein de gens qui sont au courant, qui sont pas au courant qu'il y a les endimanchés, peut-être, par exemple.
Parce qu'on a perdu notre bistrot.
Et parce que voilà, on a perdu notre bistrot.
C'est vrai.
Et ça, c'est
un bistrot.
C'est grave.
Mais oui. Le lieu où on peut croiser des gens qui ne nous ressemblent pas, qui sont pas nos copains, c'est le bistrot.
Mais pas que, parce qu'il y a plein de gens, enfin la proportion de gens qui vont au bistrot, elle est quand même mince sur la moyenne nationale.
Mais
je
qui passe, si par exemple ils vendent les journaux, s'ils vendent les autres choses,
oui.
Il y a les gens, du coup tout le monde finit par y aller, si on fait le relais colis ou je sais pas quoi, tout le monde finit par y aller, et c'est là où on a potentiellement l'occasion de croiser quelqu'un et lui de dire « Ah, mais en fait, tu sais, il se passe ça. » Voilà.
Et tous les âges et tous les... Effectivement, ouais. Effectivement. Donc, c'est clair qu'une sorte de tiers-lieu où, voilà, épicerie qui fait tabac, presse et bar, bien sûr.
Quelque chose d'ouvert, en
oui,
fait.
Parce que même ce parc qui est juste devant nous, là, il est fermé et il est... Mais il est ouvert, en fait. Mais les gens n'osent pas venir là, à part... Bon, on a la chance d'avoir... les kermesses d'école se font ici, les endimanchés se font là. Il y a le Saint-Hilaire Jazz Festival aussi, en septembre.
Rencontre avec Alexis du Théâtre Messidor, à Saint-Vincent-des-Landes, dans le pays de Châteaubriant. Le Théâtre Messidor est une institution et vient de fêter ses 40 ans. Il est implanté en Loire-Atlantique depuis 1996 avec une convention institutionnelle, la ville de Châteaubriant et la communauté des communes du Castelbrianté. Mais le théâtre Messidor, c'est encore Alexis Chevalier qui en parle le mieux.
Nous, nos ateliers, quand on a fait nos formations, parce qu'à partir de 2000, on a commencé à faire, tellement on était débordés par la démarche, on avait tellement de monde qui demandait, qu'on est parti sur l'idée de spectacle intergénérationnel. Donc plutôt que de faire dans une même saison un spectacle avec des enfants, un spectacle avec des adolescents, un spectacle avec des adultes, ou des spectacles, parce que quelquefois sur les mêmes tranches d'âge, il y avait plusieurs spectacles, on ne s'en sortait plus parce que, comment dire, au niveau temps, on était débordés. Donc on est parti sur l'idée de faire des spectacles intergénérationnels où on faisait un spectacle où on réunissait tout le monde, enfants, adolescents, adultes. Ça a été extraordinaire parce que ça a été en accord avec la municipalité de Châteaubriant de faire des spectacles de Noël ou des spectacles d'été dans la rue. Donc on avait des commandes qui étaient passées par la ville et on faisait un appel et là on avait des distributions pléthoriques. On avait 80 personnes qui venaient jouer, qui faisaient les spectacles. Et ça a été l'originalité, mais la spécificité, j'allais dire, du travail du Théâtre Messidor sur la région de Châteaubriant. Parce que ces spectacles-là ont attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de public ce qu'on a appelé les promenades littéraires dans un premier temps, au début des années 2000, qui sont devenues les promenades en Renaissance, puis les promenades au fil de l'eau, puis les promenades en comédie. On a attiré des publics de 4, 5, 6, 7, jusqu'à 800 personnes dans la rue qui nous suivaient. Donc c'était programmé 2, 3, 4 fois dans l'été. Et c'était des spectacles multiformes où on avait une promenade avec des stations, des étapes, où on jouait un petit spectacle de 10 minutes. Mais les gens, le public était très friand de cette forme théâtrale, quoi. Alors après, et puis les spectacles de Noël, là c'était des commandes aussi de la municipalité. Pour un conte de Noël, pas forcément un conte, pour une histoire de Noël que j'écrivais, qui donnait la possibilité à une grande distribution de jouer des rôles. Donc je tenais compte du fait qu'il y avait des tranches d'âge très différentes. Et ces spectacles-là, là aussi, remplissaient le théâtre de Verre trois fois, donc trois fois 500 personnes. Et on avait donc trois représentations à Noël. Et ça s'est étalé entre les années 2000-2002 jusqu'en 2014. Non, plus tard que ça, 2016.
Et tu avais parlé, quand on s'est eu au téléphone, de travail de fond et aussi de connivence avec la population.
Oui, parce que les gens ont très vite compris qu'on n'était pas là en tant qu'intellectuel de la culture, mais qu'on était là en tant que membre de cette communauté de population. Et que nous, notre spécificité, c'était effectivement le théâtre, mais pour autant, ce n'était pas un savoir qu'on détenait et qu'on allait imposer aux gens, mais que c'était la volonté de partager quelque chose. Je vais prendre l'exemple de la carrière des fusillés. Il y a ce drame qui est arrivé en 1941, donc des 27 otages. Et depuis, il y a une commémoration qui se fait tous les ans. Forcément, à partir de notre arrivée, on a été associé à cette commémoration. Et dès les années 2000-2001, j'ai été en responsabilité, moi, de l'écriture de l'évocation artistique pour la commémoration. Notre projet a tout de suite été d'associer la population et donc tous ces gens qui avaient envie de participer à ces témoignages. Cette histoire des 27 otages, elle a été particulièrement... attribué aux familles des 27 otages, puisque l'amicale Châteaubriant Veuve Rouillé-Incourt l'a fait vivre, mais elle a dépassé cette mémoire, elle a dépassé la mémoire simplement des 27 otages. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de Castelbriantais ou de gens du pays autour de Châteaubriant qui avaient des bonnes raisons de vouloir être présents à la carrière des fusillés pour parler de leur mémoire à eux, de leurs parents, parentèles, qui avaient subi ou participé à la résistance. Les gens ont été participants et plus que participants, c'est-à-dire que le Théâtre Messidor a cette particularité où, de ne pas appartenir à quelqu'un. C'est-à-dire que même si c'est nous qui l'avons amené sur Châteaubriant, assez rapidement, je dirais bien même assez vite, c'est devenu un label où les gens se sont reconnus comme étant dans un groupe partagé où ils avaient j'ose dire le mot famille, dans laquelle ils se reconnaissaient. Et aujourd'hui, le Théâtre Messidor, Voilà, on a dans le beau livre, en 2014, on a recensé plus de 1500 participants. Aujourd'hui, c'est un tissu Messidor qu'on vient de fêter les 40 ans, qui regroupe énormément de gens, mais je ne saurais pas dire combien.
Voilà. Est-ce que tu dirais qu'on peut classer ça dans l'éducation populaire ?
Absolument. Ah oui, ça me fait très très plaisir, parce que moi je suis un enfant de l'éducation populaire, et c'est tout à fait les bases sur lesquelles on s'appuie. Pour moi, l'éducation populaire, c'est pas du tout antinomique avec l'éducation institutionnelle ou savante, pas du tout, mais c'est un savoir qui se partage, et partir de l'idée que chacun a en lui une culture, et que c'est une richesse, voilà. Et cette richesse-là, quand les gens ils en ont conscience, et ben ils apportent leur voix, ils apportent leur témoignage, ils apportent leur richesse, et c'est un échange. Et c'est de tout ça qu'on fait cette éducation populaire, parce que chacun apporte à l'autre une part de son savoir.
Un petit mot pour finir sur ce que vous faites en ce moment.
Oui, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en retraite, donc depuis 4 ans. Le temps passe, mais l'aventure continue. Je continue à faire des mises en scène. Et puis surtout, le Théâtre Messidor continue par l'intermédiaire de Christine Marel, qui, elle, n'est pas du tout en retraite. Elle a encore quelques années à faire. Et elle fait des spectacles assez engagés, parce que notre orientation a été aussi sur l'engagement, même si on a fait des spectacles classiques avec Don Juan, Candide, des spectacles du répertoire. Mais on a un engagement fort sur les droits de l'homme et sur aujourd'hui la position de la femme dans la société.
Aurélie, tu travailles dans le milieu culturel. Peux-tu apporter un petit complément à ce qui vient d'être dit ?
Oui, alors ce qu'il me semble intéressant dans ces témoignages, c'est la manière dont la mise en œuvre d'actions culturelles et artistiques participe de l'émancipation des personnes et de la cohésion sociale. Parce que dans ces témoignages, ce qu'on entend, c'est que chacun s'inscrit dans ce qu'on appelle une démarche de mise en œuvre des droits culturels, qui, je le rappelle, font partie des droits humains. Et donc, les droits culturels reconnaissent toute personne comme porteuse de culture, ce qui signifie que travailler à leur mise en œuvre, c'est créer les conditions pour que toute personne qui le souhaite puisse participer à la vie culturelle de son territoire en apportant ses richesses, ses savoirs et ses savoir-faire. On passe alors d'une notion de ce qu'on appelle la démocratisation culturelle à celle de démocratie culturelle, qui met en œuvre les 3 degrés de la participation qui sont développés par la philosophe Joëlle Zask, à savoir donc prendre part, c'est-à-dire avoir accès et participer à un spectacle, à un atelier, à une action ou à un événement culturel, mais aussi donc donner une part, c'est-à-dire contribuer. Alors là, dans les exemples, on entend bien, par exemple à Saint-Hilaire, que l'association a été créée aussi pour permettre à d'autres personnes de pouvoir porter des ateliers, programmer un spectacle, en amenant donc ses ressources et en les partageant. Comme elle le dit très bien, d'ailleurs, c'est aussi une manière de s'approprier son territoire. Dans l'autre exemple, contribuer, c'est aussi participer à la construction d'une identité collective, puisque dans l'exemple du spectacle avec les fusillés, chacun amène son histoire, son patrimoine, pour enrichir ce qu'on peut appeler une communauté culturelle. Et enfin, donc, la dernière manière de participer, c'est le fait de prendre part, c'est-à-dire que, en participant à l'ensemble de ces actions, chacun s'enrichit du savoir des autres et en partageant ses savoirs, s'émancipe. Voilà, donc toutes ces personnes en fait contribuent à développer ce qu'on appelle le pouvoir d'agir et donc sa citoyenneté, et s'inscrivent dans une démarche d'éducation populaire. Et pour finir, ce qui me paraît important, c'est aussi la question des lieux qui est évoquée, donc des lieux pour faire ensemble, mais aussi pour se rencontrer. Ça me paraît être un élément important, car quand on travaille à la mise en œuvre des droits culturels, on dit qu'on travaille à faire humanité ensemble. Alors, ça paraît un peu grandiloquent comme ça, mais ce que ça signifie, c'est qu'on travaille à être reconnu dans sa culture et reconnaître celle des autres, et donc reconnaître la diversité culturelle comme patrimoine commun de l'humanité. Et à l'heure où il y a des montées des extrêmes et des replis identitaires, il me semble bien que travailler à ces espaces-temps de rencontre est une forme de mobilisation indispensable. Voilà, et puis donc ben, ces deux derniers témoignages sont une belle manière de conclure, je trouve, ce premier épisode sur les formes d'engagement plus informelles et pour autant non moins essentielles. Et puis donc on vous propose de se retrouver pour un second épisode sur les formes de mobilisation dans le milieu rural en allant voir donc d'autres personnes qui, au vu d'urgence écologique, sociale et sociétale, ont choisi d'autres formes d'action, parfois plus affirmées, voire plus radicales. À bientôt.